Jean chapitre 3 et verset 16. Qui connaît ce verset? Levez-vous si vous connaissez ce verset par cœur. Alors, Jean chapitre 3 verset 16. Levez-vous si vous connaissez ce verset par cœur. Hein? Ce verset nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Encore une fois, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci pour ce verset, Seigneur, qui nous a bouleversé la première fois qu'on l'a entendu. Combien de nous sommes venus à toi parce que nous avons pris conscience du contenu de ce verset. Au nom de Jésus, merci. Amen. Alors la question, est-ce que nous avons la vie éternelle? Est-ce que nous avons la vie éternelle? C'est bien de lire ce verset, c'est bien de le répéter, c'est bien de le citer par cœur. Mais est-ce que nous avons la vie éternelle? Tu dis, bon, il faut que j'attende jusqu'à la mort pour savoir si j'ai la vie éternelle. Moi, je ne vais pas attendre jusqu'à la mort. Je ne vais pas attendre. Il a aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il connaisse Dieu. Qu'il connaisse Dieu. La dernière fois que nous avons pris la parole, j'ai pris la parole, c'était, on a parlé de la puissance du royaume de Dieu. On a parlé de comment Dieu veut se manifester. L'apôtre Paul disait, je veux le connaître et la puissance qui émane de sa résurrection. Vous voulez voir des prodiges, des miracles dans votre vie? Vous voulez voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans votre vie? Vous voulez voir Marc chapitre 16 accompli dans votre vie? Alors, connaissons Dieu. Connaissons Dieu. J'ai entendu un frère cette semaine qui a dit, quand Dieu ne guérit pas, ne te pose pas la question pourquoi il n'a pas guéri. Continue à le connaître. C'est tout. Vous savez, on aimerait que tout soit automatique. On aimerait que tout soit instantané. On aimerait que tout soit le résultat d'une formule quelconque. Mais connaître Dieu, connaître Dieu. Jean 17, verset 3 nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quelle était la prière de Jésus en Jean chapitre 17? Il voulait que ceux que Dieu lui avait donnés, si vous lisez en Jean 17, il y a 3-4 reprises, ceux que tu m'as donné, ceux que tu m'as donné. Alors le verset 1, après avoir ainsi parlé, Jean chapitre 17, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quelle est notre expérience en connaissant Dieu? En connaissant Dieu. Jésus a dit, vous me connaissez moi? Vous connaissez le Père. Jésus est venu nous révéler le Père. Et nous, en tant que corps de Christ, nous sommes appelés aussi à révéler le Père. Nous sommes appelés aussi à ce que les personnes ne se posent pas des questions quand ils nous rencontrent, parce qu'il y a quelque chose en nous qui leur donne envie de plier leurs genoux, qui leur donne envie de chercher la face de Dieu, qui leur donne envie de s'approcher de Dieu, qui leur donne envie d'acheter une Bible. Quelle est notre expérience ? Avons-nous simplement entendu parler de lui? Ou poursuivons-nous notre parcours d'arriver à véritablement le connaître? En Osée chapitre 6, j'aimerais que vous le lisiez, c'est le livre juste après Daniel. Osée chapitre 6, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons, goûtons le Seigneur, et par rapport à ce qu'on a goûté de lui, cherchons à le connaître encore. Connaissons, parce que quelqu'un nous a dispensé la parole de vérité. Quelqu'un nous a donné la joie, le privilège de connaître Jésus en tant que sauveur, parce que Dieu a utilisé un homme, une femme pour nous parler, pour nous sensibiliser à notre besoin de Dieu. Connaissons et cherchons à le connaître. Connaissons et poursuivons à le connaître. Ne restons pas seulement à ce qu'on nous a raconté. La Bible dit qu'il y a un danger de rester toujours au point neutre. Regardez avec moi hein. En Pierre, 1 Pierre chapitre 2. Le verset 22 du chapitre 1 nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous avait été annoncée par l'Évangile. » Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Même si tu es chrétien depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, désire comme un enfant nouveau-né le lait spirituel. Un enfant nouveau-né demande du lait. Un enfant nouveau-né insiste. Insiste au milieu de la nuit, insiste à l'aube. Un enfant nouveau-né a soif. Désirons toujours, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Par Jésus-Christ. Verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qui va louer le Seigneur? Ceux qui chantent les vertus de celui qui nous a sortis des ténèbres à son admirable lumière. 2 Pierre chapitre 1, nous voyons à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la vertu la science, à la science la tempérance la patience à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Il y a une progression. On ajoute, les fruits de l'esprit sont manifestes dans notre vie. Il y a une progression. Les fruits de la foi sont manifestes dans notre vie. On est en train de grimper l'échelle, de marcher, de monter donc les marches. On est en train d'ajouter à notre foi encore un élément, encore un élément. Le verset 5, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes qui, parce qu'ils n'ont pas eu la connaissance de savoir comment chercher la face de Dieu, comment comprendre la parole de Dieu, ils sont restés au point neutre. Ils sont restés dans les ABC de la foi. Ils sont restés dans les bases de la foi. Mais ici, nous voyons qu'il y a une progression. Si ces choses sont en vous, vous ne serez point oisifs. Parce qu'on est actif dans l'esprit, on est guidé par le Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu, on est actif et on n'est pas stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous rappelez Moïse. Moïse avait une grande tâche. C'était lui qui avait sorti le peuple d'Israël d'Égypte. C'était lui. Est-ce que c'est lui qui a conduit le peuple, qui a emmené le peuple dans la terre promise? Non. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il est allé plus loin que ce que Dieu avait fait. Et pourtant, Moïse était un homme, selon le cœur de Dieu, un ami de Dieu. Mais à un moment donné, par la frustration qu'il avait, il est allé plus loin. Cette fois-ci, il est allé plus loin que ce que Dieu avait dit. Et la Bible dit qu'à cause de ça, il n'a pas pu rentrer dans la terre promise lui-même. Mais lorsqu'il était entouré par le peuple d'Israël, il savait que Moïse avait une communion avec Dieu. Il savait que Moïse avait un face-à-face avec Dieu. Et nous voyons en Exode chapitre 24, vous pouvez le lire, mais c'est là où Moïse monta vers Dieu. Alors je ne sais pas si le peuple aurait été capable de monter vers Dieu. Mais en tout cas, il disait, Moïse, tu vas parler avec Dieu, après tu nous racontes ce qu'il t'a dit, et nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Si vous lisez le psaume 78, vous allez voir que le peuple n'a pas toujours obéi à ce que Moïse a dit. Si vous lisez le psaume 78, c'est un des psaumes les plus tristes, parce qu'ils disent qu'ils vivaient les miracles de Dieu, ils vivaient les œuvres de Dieu, ils vivaient vraiment donc la gloire de Dieu qui s'est déployée, la puissance de Dieu qui s'est déployée, mais ils ne grandissaient pas dans leur connaissance de Dieu eux-mêmes. À un moment donné, ils oubliaient les œuvres de Dieu, ils oubliaient les miracles qu'il avait faits. Et la Bible dit qu'ils revenaient dans leurs anciennes habitudes. Ils revenaient. À un moment donné, il y a le veau d'or qu'Aaron avait fait construire pour eux, parce qu'ils voulaient voir un Dieu visible pendant que Moïse était en train de parler avec Dieu. Et chaque fois que Moïse revenait, il en parlait. Parfois, il y avait une discipline qu'il exerçait. Parfois, il y avait une punition parce qu'eux, ils avaient choisi de se dévier complètement du cœur de Dieu. Et après, il remontait et il avait ce face-à-face avec Dieu. Quand il revenait, son visage était tellement brillant, fulgurant. Il fallait mettre un voile parce qu'on ne pouvait pas regarder son visage. Il avait été en présence du Dieu vivant. Mais le peuple restait toujours en marge. Le peuple restait toujours loin de ce face-à-face avec lui. Heureusement qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de passer par Moïse. Nous n'avons plus besoin de passer par un pasteur. Nous n'avons plus besoin de passer par un frère, par une sœur. Nous avons accès auprès du Père. Nous avons accès auprès de sa présence. Nous avons accès auprès du Père. Et nos visages peuvent refléter la gloire de Dieu. Nos visages peuvent refléter cette lumière. Alors leur expérience à l'époque, c'était Moïse, monte vers Dieu. Et on t'assure, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous obéirons. Jérémie chapitre 9, verset 23 à 24 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie de quoi ? D'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. Te connaître, Jésus. Te connaître, Jésus. Il n'y a rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Te connaître. Te connaître. Est-ce que nous grandissons dans notre connaissance de Dieu ? Est-ce que nous nous attendons à la vie éternelle, la promesse de Dieu ? Quand on sera mort, on sera dans sa présence. On espère entendre sa voix nous dire, « Bon serviteur ou servante, tu as été fidèle, rentre dans la joie de ton maître. » Mais si c'est que dans cette vie que nous espérons Dieu, nous sommes les plus malheureux, la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 15. L'espérance vivante que nous avons, c'est l'espérance que nous avons aujourd'hui. L'espérance dans nos épreuves, mais aussi l'espérance que nous allons voir Jésus face à face. Celui qui veut se glorifier doit se glorifier d'avoir de l'intelligence et de connaître Dieu. On a vu il y a 2 semaines qu'on se glorifie dans nos faiblesses, car c'est dans les faiblesses que Dieu va se manifester, la puissance de Dieu va se manifester. Et c'est là où l'apôtre Paul, il disait, Seigneur, fais-moi échapper de cette écharpe dans la chair, fais-moi échapper, Seigneur, de cette épreuve. Et la réponse de Dieu a été, ma grâce te suffit. Mais Seigneur, c'est pas cool, c'est pas gentil, Seigneur. Ma grâce te suffit. Continue à me connaître dans tes faiblesses. À me connaître dans tes faiblesses. Bien sûr, pour connaître Dieu, je reviens rapidement. Il faut avoir fait le pas d'ouvrir son cœur et de donner son cœur à Jésus. Il faut avoir reçu Christ dans notre cœur. Il faut avoir cru en lui. Il faut devenir enfant de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit ici en Pierre que si nous n'ajoutons pas ces choses à notre vie, on va rester au point zéro. On va rester au point de départ. Et on va se rappeler toujours que Jésus m'a sauvé. Mais qu'a-t-il fait depuis ? Comment est-ce que le Seigneur a continué à faire que toi tu sois un homme, une femme qui bouleverse le monde, qui bouleverse la ville ? Quel témoignage portaient nos frères et sœurs dans le livre des Actes des Apôtres ? Une fois qu'on est né de nouveau, une fois qu'on commence à grandir et à mûrir dans le Seigneur, une fois qu'on commence à grandir en tant que membre du corps, une fois qu'on commence à comprendre quel est mon rôle dans le corps, comment est-ce que je suis connecté aux autres membres, comment les autres membres ne peuvent rien faire sans moi, comment moi je ne peux rien faire sans eux, on est un corps, on est attaché à la tête, la Bible dit en Colossiens chapitre 2, on est attaché à la tête, on n'est pas détaché de la tête, et chaque mouvement de notre corps vient de la tête. Chaque fois que je bouge un bras, c'est ma tête qui l'a décidé. Nous sommes liés à Christ, nous sommes attachés à lui, mais chaque membre du corps, on est liés les uns avec les autres. C'est pour cela qu'on se parle dans la vérité, dans l'amour. On se parle parce qu'on sait que c'est la seule manière comment nous pouvons vivre dans une harmonie en tant que membre du corps. Connaître Dieu qui est la source de la bonté, de la droiture, de la justice. Connaître Dieu qui est la source de la joie. Connaître Dieu qui est celui qui produit en nous les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper. Les fruits de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on va accueillir, mais c'est quelque chose qu'on va accueillir de notre vie. C'est à leurs fruits que vous les connaîtrez. Quels sont les fruits que nous pouvons produire en tant qu'enfants de Dieu? Le fruit d'être gagnant d'âme. Celui qui gagne des âmes est sage. Celui qui gagne des âmes, il dit dans notre version, porte du fruit. Bien sûr, avant de gagner des âmes, il faut passer par ce qu'on appelle le fruit de la repentance, le fruit de la justice. Mais ensuite, il y a ce fruit de l'esprit qui est évident dans notre vie. Au fur et à mesure qu'on grandit dans notre connaissance de Dieu, nous allons le ressembler. Nous allons être comme lui, il est. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Alors le but recherché, c'est que ceux qui connaissent Dieu, la Bible dit que ceux qui connaissent Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Quelqu'un m'a posé la question à Dieppe récemment, mais pourquoi on n'a pas plus de miracles? Pourquoi est-ce que les personnes restent malades? Tout simplement, prions notre genou et cherchons la face de Dieu. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Moi, j'ai vu comment Dieu se glorifie dans notre vie, au travers de la maladie et au travers de la guérison. Moi, j'ai des témoignages personnels dans lesquels j'ai vu comment Dieu s'est manifesté parce que cela allait toucher, cela allait bouleverser la mentalité de ceux qui regardaient cette situation. Néanmoins, la personne qui a été guérie est décédée 6 mois après. Comment expliquer ? Le Seigneur sait. La Bible dit que nos jours sont comptés. La Bible dit que chacun de nous, on va répondre à Dieu. On va tenir debout étant ici-bas. On est redevable à Dieu. On va rendre des comptes à Dieu. Mais pendant qu'on est vivant, connaissons Dieu. Et il dit en Daniel chapitre 11, « Mais le peuple qui connaît son Dieu fera des exploits. » Qu'est-ce qu'un exploit? Aussi dans le psaume 60 verset 2, « Avec Dieu nous ferons des exploits. » C'est lui qui écrase nos ennemis. Ce n'est pas seulement à ceux qui sont dans le ministère qui doivent faire des exploits. Ce n'est pas seulement à ceux qui se disent même avoir le don des miracles, le don des guérisons, le don des foi de faire des exploits. Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Qu'est-ce qu'un exploit? Un exploit, c'est une action d'éclat qui manifeste un grand courage. Aussi, un exemple, les exploits d'un héros. Bon, nous ne sommes pas des héros. Nous sommes tout simplement des serviteurs de Dieu. Nous sommes des amis de Dieu. Nous sommes à l'écoute de Dieu. Et Dieu va faire des choses au travers de nous. Mais aussi, c'est une action mémorable qui dépasse les limites ordinaires. Et c'est ça. Nous ne sommes pas des gens extraordinaires, mais nous sommes des gens ordinaires qui croient en un Dieu extraordinaire. Et c'est pour cela que les actes que Dieu veut faire au travers de nous, les actes des apôtres que nous voyons, c'était des actes faits au travers des peuples ordinaires, mais ils faisaient des actions qui étaient extraordinaires. Un jour, mon père, il a entendu un frère lui dire, « Tu veux toujours pouvoir expliquer ce qui se passe dans ta vie et dans ton ministère ? Donc reste au stade d'indifférence. Mais tu veux être quelqu'un qui ne peut pas expliquer Ce qui se passe dans ton ministère, ce n'est pas ton ministère, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Alors, cherche la face de Dieu, cherche le Saint-Esprit, cherche à être revêtu de la puissance d'en haut, cherche à ne pas avoir honte de l'Évangile. C'est une puissance pour ceux qui sont exercés, pour ceux qui sont sauvés. Est-ce que dans notre vie, nous avons des choses qui se passent, qui sont toujours explicables? Ou est-ce qu'il y a des fois des choses qui sont inexplicable. Je me rappelle, il y a plusieurs années, on a prié pour une sœur. Elle était presque dans le coma, son cœur était en train de faillir. Et c'était lors de notre convention, le 10e anniversaire. C'était à ce 10e anniversaire qu'on avait invité 5000 personnes dans le quartier. Vous savez combien sont venus? Personne. Mais on a été courageux. Hein. Et je me rappelle donc à la fin de la réunion, samedi soir, on m'a dit, Marc, voilà, elle est à l'hôpital, elle est vraiment en fin de vie. Et j'ai emmené quelqu'un avec moi, on est allé prier pour elle. Le lendemain matin, le médecin disait, elle a un cœur d'une jeune fille. On ne s'explique pas, elle avait été instantanément guérie et son cœur avait été transplanté par un cœur nouveau que Dieu avait donné. Des choses inexplicables. Si nous travaillons avec Dieu pour qu'il rien n'est impossible, il nous invite à collaborer avec lui, à travailler avec lui, il nous invite à être ses co-ouvriers, et en tant que ses co-ouvriers, selon Ésaïe chapitre 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur nous, et il nous a oint pour porter une bonne nouvelle, il nous a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, il nous a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux, il nous a oint pour dire à ceux qui sont aveugles qu'ils peuvent voir à nouveau, il nous a oint pour enlever cet esprit d'abattement et le remplacer par un esprit de louange, un vêtement de louange. Ceux qui connaissent leur Dieu, oui, combien on aimerait voir les miracles qu'on voyait dans le livre des Actes des Apôtres. Combien on aimerait voir les miracles dont on entend parler des biographes, des personnes qui ont écrit des biographies, des hommes et des femmes de Dieu dans le siècle dernier et donc à la fin du 19e siècle, des choses extraordinaires, des personnes qui ont bouleversé des pays entiers, des personnes qui ont eu un impact. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient Dieu, c'est tout. Ils connaissaient Dieu. L'apôtre Paul disait en 1 Corinthiens chapitre 2, « Pour moi, frère, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. En Actes chapitre 17 et verset 6, il y avait des hommes et des femmes qui avaient un témoignage extraordinaire. Ce témoignage était, il bouleverse la ville. Actes 17 et verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Qui étaient ces gens qui bouleversaient le monde? Qui étaient ces gens qui allaient vers un paralytique et qui lui disaient, « On n'a rien à te donner, on n'a ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus-Christ et au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et ils se levaient, et ils sautaient de joie, et les gens étaient étonnés dans l'étonnement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes, des femmes de foi qui ont cru à ce que Dieu avait dit. Surtout dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans laquelle les gens ont du mal à croire en Dieu, les gens ont du mal à accepter l'existence de Dieu, les gens ont du mal à accepter qu'il y ait un Dieu à qui ils doivent rendre des comptes. C'est ça la peur que les gens ils ont. S'ils acceptent que Dieu existe, ils savent qu'ils doivent lui rendre des comptes. S'ils acceptent que Dieu existe, ils savent qu'un jour il faut passer à la caisse. Passer à la caisse, pourquoi? Parce que selon ce que Dieu a révélé dans leur cœur, ils vont répondre. Et c'est pour ça que la révélation naturelle que nous avons dans la création, n'était pas assez, il fallait la révélation divine, il fallait la révélation de la parole de Dieu, il fallait qu'on ait la parole de Dieu dans nos mains. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. À quel moment est-ce que le témoignage va retentir? Ces personnes qui sortent d'une telle adresse à Paris, ils sont venus ici, ils sont venus à l'hôpital, et quelque chose s'est passé. Lorsqu'ils passaient donc à côté des soins intensifs, toutes les machines ont commencé à piper, tous les infirmiers ont couru parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'est passé, et tout d'un coup, ceux qu'ils voyaient au point mort, il n'y avait que la ligne qui commençait vraiment, vraiment à décliner, tout d'un coup, elle s'est mise à vivre. Tout d'un coup, il y a eu des cœurs qui se sont mis à battre. Pourquoi? Parce que ces gens qui ont bouleversé le monde, ces gens qui connaissent Dieu, sont passés par là. Quand Pierre passait, c'est la Bible dit, les gens se tenaient afin que si son ombre tombait sur eux, ils puissent être guéris. Quand Jésus passait, Bartimée avait entendu dire, tu sais, Jésus, ah Jésus, c'est lui qui guérit, mais je vais faire le nécessaire. Je vais crier, je vais tirer l'attention sur moi, j'ai entendu dire qu'il guérit, j'ai entendu dire qu'il guérit les yeux aveugles. Alors il a commencé à crier, à crier, à crier, les gens lui disaient, mais tais-toi. Et il disait, non, 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 moi je veux être guéri. Et il criait, et Jésus dans sa compassion, il s'est arrêté, et il a encore bouleversé la situation. Vous vous rappelez la femme qui allait enterrer son fils dans la ville de Naïn? Elle se dirigeait avec quelques-uns qui l'accompagnaient pour enterrer son fils. Et Jésus est passé par là. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est approché d'elle. Il s'est approché de ce garçon. Et il a ressuscité. Des gens qui bouleversent le monde. Des gens qui bouleversent le monde, ils se font un souci de connaître Dieu. Ils se font un souci d'être forts selon la force que Dieu leur donne. Ils vont se glorifier dans le fait qu'ils connaissent Dieu et qu'ils savent qu'il est l'éternel Dieu et qu'il est plein de bonté, de droiture et de justice. Et ceux qui connaissent leur Dieu, ils feront des exploits. Connaissance par expérience, le fait de mettre en pratique ce que nous connaissons. Il dit en 1 Jean chapitre 1, et je le répète, c'est un passage qui m'a beaucoup marqué il y a plusieurs années, quand il dit, en 1 Jean et chapitre 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ce que nous avons contemplé concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous et avec le Père. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, révèle-toi à nos cœurs. Révèle-toi à nos cœurs. Que chaque jour, on ait quelque chose à ajouter à notre expérience, à notre connaissance par expérience. Vous savez, pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec. Dans Apocalypse 3, verset 20, nous avons ce verset qu'on utilise souvent pour des réunions d'évangélisation. Mais en fait, c'est Dieu qui fait appel à l'Église et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Cette Église qui se disait être riche, cette Église qui disait qu'elle avait besoin de rien, cette Église qui disait qu'elle se suffisait à elle-même, mais qu'en fait, était misérable, pauvre, aveugle, nue. Et on me conseillait d'acheter de l'or, d'acheter, de l'en éprouver par le feu. Et il lui disait, tu sais, oui, tu es mon église, mais je désire que tu passes du temps avec moi. Je désire que tu me connaisses. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je suis prêt avec lui et lui avec moi. Cette intimité avec Dieu. Constamment, nous voyons l'encouragement de l'apôtre Paul. En Éphésiens chapitre 3, verset 19, il disait qu'il priait pour nous pour qu'on connaisse l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance intellectuelle, qui surpasse toutes sortes de données qu'on peut avoir à l'égard de Dieu, en sorte qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si j'avais un entretien personnel avec chacun de vous, et que je pourrais vous poser 3 questions en particulier, pour savoir où vous en étiez avec Dieu, pour savoir où vous en étiez par rapport à votre connaissance de Dieu, pour savoir où vous en étiez par rapport à votre intimité avec Dieu, Je ne sais pas quelle serait la réponse. C'est à chacun de nous de savoir où nous en sommes. Mais est-ce que nous sommes en train de vivre pleinement la vie de Dieu en nous? Est-ce que nous sommes en train vraiment d'arriver à ce stade, d'accomplir les œuvres pour lesquelles il nous a créés? 1 Pierre 3, verset 18, encore dans cette épître pastorale, il dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez toujours dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Croître. Croître. C'est qui fait croître? Il dit en Corinthiens qu'il y avait ceux qui disaient « Ah, moi c'est Paul qui m'a baptisé. Ah, moi c'est Apollos. » Et à André, il a dit « Je suis content que je vous ai baptisé. » Personne ne l'a baptisé. Pourquoi? Parce que l'un arrose, l'autre sème, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui donne la croissance. C'est Dieu qui opère en nous. C'est Dieu qui se manifeste dans nos vies et dans nos cœurs. Et en Jude, chapitre 1, parce qu'il y a un seul chapitre, le verset 17. « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Mais vous, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Là, pour la vie éternelle, encore connaissons Dieu de notre vie, mais aussi pour la vie éternelle à venir. Il y a une vie éternelle à venir. Alors je ne sais pas si on sera assis sur des nuages en train de jouer des harpes pendant quelques milliers d'années. Et ensuite, Dieu va nous confier des responsabilités, parce que c'est sur le Satan que dans la parole de Dieu, c'est bien dit que nous allons régner avec lui. Mais alors, ce qui est important, c'est qu'on sera avec lui pour des millions d'années. Il y a une espérance vivante concernant cette espérance. Regardez avec moi ce passage que j'ai lu hier soir lors de cette veillée en 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc ceux qui meurent, ils sont en train de dormir. C'est tout. C'est pour ça que pour nous, vous savez, dire au revoir à un être bien-aimé, c'est un au revoir, c'est pas un adieu. Il dort, voilà. Il va se réveiller au ciel. C'est endormi, il va se réveiller au ciel. Quand ma mère est partie auprès du Seigneur, elle a mis une leucémie pendant 7 ans. Cette leucémie, d'après le médecin, rien ne changeait par rapport à ses globules blancs, ses globules rouges, elle pouvait avoir des transfusions, avoir un traitement, rien ne changeait. Il disait, je ne sais pas comment vous tenez debout, mais elle a été dans tout son zèle pendant 7 ans. Et le jour qu'elle est décédée, elle a fait un grand repas pour 12 personnes à midi. Elle était, mais bon, elle battait vraiment la forme, elle était en forme. Et à 7h, elle s'est couchée, à 7h05, elle est partie, comme ça. Vous savez, elle s'est endormie. Ici, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être présent lors d'un enterrement de quelqu'un où vous savez Dieu n'y était pas. Il n'y avait pas d'espérance. En Mexique, c'était très très classique. Des fois, il y avait même des femmes, non chrétiennes bien sûr, qui se jetaient carrément sous le cercueil en disant « Amène-moi avec toi, de toute façon, ça ne sert à rien de continuer à vivre. » Et pourtant, les 5 enfants, alors il ne faut continuer à les soutenir. Donc vous voyez des gens qui n'ont pas d'espérance. Et quand vous leur donnez un brin d'espérance, alors là, ça change tout. Au Mexique, moi j'aime beaucoup les enterrements, hein, je suis sur le sujet. J'aime beaucoup pourquoi? Parce que on allait au cimetière. Vous savez, à Mexico, dans les grandes cimetières, ils creusaient d'emblée 80 fosses pour les adultes et 40 pour les enfants. Ils savaient qu'à la fin de la journée, ils seraient remplis. Et c'était donc, voilà, l'une après l'autre à la chaîne. Et alors, nous, on arrivait avec notre bien-aimé frère ou sœur qui était décédé, et on arrivait, nous, avec la musique, avec les tambourins, les guitares, c'était la fête, c'était la joie. Et alors, on était là pour enterrer notre bien-aimé. Et pendant qu'on était là, vous aviez trois autres processions funèbres qui arrivaient. Mais eux, ils n'étaient pas accompagnés ni par des pasteurs, ni par des prêtres, ni par personne. Ils arrivaient avec leurs pleurs, leurs larmes. Et alors, par respect, ils nous attendaient. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On levait plus la voix, on chantait plus fort, on prêchait plus fort. Et on faisait des appels. Il y avait des gens des autres, donc processions funèbres, qui venaient devant le cercueil ou à côté d'où nous on était, pour donner leur cœur à Jésus. Et plus d'une fois, je ne vous mens pas, je ne suis pas sorti du cimetière que trois heures après, parce qu'ils m'ont demandé de faire chaque enterrement. Et à chaque enterrement, il y avait des gens qui rencontraient Christ dans leur désespoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un message d'espérance. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup les enterrements. Parce qu'il y avait des gens qui se convertissaient. Je me rappelle quand on est allé donc avec nos enfants en 91, mes parents étaient décédés quelques années avant. Et la tombe de mes parents, c'est une tombe qui est extraordinaire. Extraordinaire parce qu'il y a une croix qui fait 5 mètres d'hauteur qui disent « Seul Jésus sauve ». Il y a la colonne du Saint-Esprit qui descend sur la croix. Alors quand vous arrivez au cimetière d'Ermita Iztapalapa dans la ville de Mexico, vous demandez où est la croix. Mais imaginez les centaines de milliers de croix qu'il y a dans ce cimetière. Mais quand les gens disent où est la croix, c'est parce que cette croix, elle est impressionnante. Seul Jésus sauve. Et alors quand vous arrivez devant cette tombe, qui est assez impressionnante, sous la pierre tombale, c'est écrit, Daniel et Ruby, ils ont semé l'amour où il y avait la haine, ils ont semé la foi où il y avait le doute, ils ont semé l'espoir où il y avait le désespoir. Et ensuite, vous avez les noms de nos églises par quartier, avec les numéros de téléphone sous la pierre tombale. Il y a un petit étagère avec des traités qui est nourri tous les samedis. Les gens vont, ils mettent les traités et à chaque fois c'est vide. C'est extraordinaire. Et alors j'ai emmené nos enfants, Denis et moi on a emmené nos enfants pour qu'ils voient cette tombe. Ils n'avaient jamais vu. Il y a une dame qui s'approchait, qui était en pleurs, qui était habillée en noir, et elle était dans le deuil. Une dame avec ses trois enfants. Certainement elle revenait d'avoir enterré son mari. Tous ses amis l'avaient quitté, peut-être elle est restée sous la tombe 2-3 heures à parler, à dire à son mari que c'était pas sympa de l'avoir quitté comme ça, etc. Je ne sais pas, mais elle était désespérée. Elle passe devant nous, elle s'arrête devant la croix et elle commence à regarder. Et là, bien sûr, il fallait saisir l'occasion, je me suis approché d'elle et on lui a parlé. Elle a accepté Jésus dans son cœur. Le sourire est venu sur son visage. 3 semaines après, j'étais dans une de nos églises. Elle était au premier rang avec ses 3 enfants. Elle avait compris quelque chose. Pourquoi? Parce que quand on a de l'espoir, oui, on a un espoir pour cette vie et pour la vie éternelle. Nous avons un message extraordinaire à donner. Verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous avons déclaré d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Alors si vous êtes à côté d'un cimetière à un moment donné et que vous commencez à voir des personnes qui prennent le vol, sachez que vous allez les suivre après. Hein. Mais premièrement, c'est eux qui vont ressusciter d'abord. Ceux qui se sont endormis en Christ vont ressusciter d'abord. Et si vous les voyez, préparez-vous à sortir vos ailes parce que vous allez les suivre. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La vie éternelle ici-bas, de connaître Dieu, et la vie éternelle après la mort. Et c'est pour cela que nous ne craignons pas la mort. Alors aujourd'hui, Quelle est notre expérience présente? Moi, je veux que vous viviez la vie éternelle après la mort. Moi, je veux que vous viviez une éternité avec Dieu. Je désire que vous viviez une éternité avec Dieu après la mort. Mais quelle est ton expérience aujourd'hui? Est-ce que nous sommes en train de grandir dans notre connaissance de Dieu? Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux être transformé à ton image. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à un Dieu si puissant, un Dieu si grand. Est-ce que nous grandissons dans notre expérience? Ou est-ce que lorsqu'on témoigne, on parle de ce que Dieu a fait il y a 20 ans, il y a 30 ans? Qu'est-ce que Dieu a fait hier? Qu'est-ce que Dieu a fait avant-hier? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Comment est-ce que Dieu te parle? Comment est-ce que Dieu est à l'œuvre dans ton cœur, dans ta vie? Parce que la Bible dit qu'il agit sous sa parole qui est en nous. Et si sa parole est en nous, ça c'est la matière prime pour qu'il puisse se manifester, qu'il puisse se révéler, pour qu'on soit formé comme des vases d'honneur. Seigneur, que ce matin, le désir de notre cœur soit de te connaître. Soit de grandir, Seigneur, oh Dieu, dans notre compréhension de qui tu es. Sois de grandir, Seigneur, dans notre compréhension de tes attributs. Grandir dans notre conviction profonde que nous sommes créés pour toi, que nous sommes créés pour ta gloire, que nous sommes, Seigneur, créés pour vivre par la foi et pour la foi. Et le juste vit par la foi. Et nous vivrons par la foi jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Seigneur, si on se posait sur la balance aujourd'hui, quel serait le résultat? Si on serait pesé devant toi, quel serait le résultat? D'après le temps depuis qu'on te connaît, d'après l'enseignement que nous avons reçu, d'après le trésor que tu as mis dans notre cœur, d'après la connaissance tu as permis qu'on puisse acquérir. Seigneur, nous voulons te connaître. Nous voulons être des hommes et des femmes qui bouleversent dans le monde. Nous entendons tellement de choses jour après jour. Le monde va de mal en pire. C'est la catastrophe. Le monde pourrait s'anéantir d'ici 10 ans, 20 ans. On entend tellement de choses, Seigneur. Mais alors, à quel moment est-ce qu'on entend dire « Il y a ceux qui bouleversent le monde, qui sont venus ici aussi, qui sont venus et ils ont bouleversé le quartier, ils ont bouleversé cette maison. Ils se sont approchés d'un tel lieu et il y a eu un impact. » Le désir de notre cœur, Seigneur, c'est de grandir en toi, de mûrir en toi et de te connaître. Connaître dans l'intimité. Seigneur, que tu viennes dans nos cœurs, que tu creuses au plus profond de notre être et tu nous fasses comprendre ce combien nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-nous cette soif, ce désir profond de te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Gardons les yeux fermés, recourbés un instant. Je sais qu'il y a des personnes qui sont ici pour la toute première fois ce matin. Et peut-être vous dites, c'est la première fois que j'assiste à une telle réunion. C'est la première fois que je vois des personnes chanter leur fidélité à Dieu, chanter leur joie à Dieu. C'est la première fois que je vois des personnes qui vont être assises à écouter ce que Dieu peut leur révéler au travers des messages qui sont donnés. Et vous dites, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais participé à la foi. Je n'ai jamais participé à ce commencement des vies éternelles. Je n'ai jamais su ce que cela veut dire d'être enfant de Dieu, d'être né spirituellement. S'il y a quelqu'un qui dirait, priez pour moi, priez pour moi. Et là, à votre place, levez votre main, tout simplement, dites, priez pour moi, tout simplement. Priez pour moi. Je sais que Dieu s'intéresse. Et c'est pour cela que je suis là. Je sais que Dieu veille sur moi. Et c'est pour cela que je suis là. Si tu as déjà donné ton cœur au Seigneur, ça s'est réglé, c'est fait. Mais s'il y a quelqu'un qui dirait, priez pour moi. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. D'une manière initiale, d'une manière à découvrir ce qui est la foi. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Parce que Seigneur, tu nous parles à chacun à ta façon. Je te demande, Seigneur, que tout au long de cette journée, il n'y ait qu'une seule soif en nos cœurs. De te connaître. De te connaître. Et la puissance qui émane de ta résurrection. Et même l'apôtre Paul, il disait, je laisse en arrière les choses du passé. Je laisse à l'oubli les choses, les victoires, les échecs. Je laisse tout ça en arrière afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Quelle était cette vocation céleste? C'était de connaître Dieu et la puissance de sa résurrection. De connaître Dieu dans toute sa splendeur. Et Seigneur, c'est la soif que nous avons, le désir de notre cœur. Manifeste-toi dans nos vies. Et que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton règne vienne dans nos cœurs. Et qu'on soit de ceux qui bouleversent notre monde. Au nom de Jésus. Amen.